Europe Soir, Pierre de Villeneau.
Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec au programme Éric Zemmour. Invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos ce matin. Toujours pas de date précise en ce qui concerne sa candidature à la présidentielle, mais il en a dit un peu plus sur son cahier des charges. Focus sur les étrangers, les privés d'aide sociale, les expulsés plutôt que de les garder en prison, les déchoirs de nationalité française, dans les cas bien sûr où ils commettent des crimes ou de sérieux délits. Grande discussion également sur l'islam et l'islamisme, sur les binationaux, sur Pétain, sur le régime de Vichy qui a sauvé les Juifs, il l'a redit encore ce matin, sur les LR qu'il taxe de partis de notables centristes qui ont trahi la droite gaulliste. Notez que cet après-midi, Éric Zemmour était à Asnières, en banlieue parisienne, pour une réunion publique en compagnie de deux autres LR déclarés, en l'occurrence Philippe Juvin et Éric Ciotti. Zemmour, toujours pas dans la campagne, mais toujours aussi présent dans le débat public, on en parle dans notre première grande partie jusqu'à 19h. Pendant ce temps, quoi de neuf à droite? Valérie Pécresse s'est rendue à Pantin, où elle a estimé qu'on n'a fait que déplacer le problème avec les toxicomanes. La présidente de la région Île-de-France réclame une réponse sanitaire pour les consommateurs de crack. Xavier Bertrand, lui, marque des points, note le JDD ce matin. Il reste le mieux placé à droite, selon l'IFOP, pour battre à la fois Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le candidat vert, quel qu'il soit, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Éric Zemmour. Sondage fait à la fois auprès de Français et de militants LR par l'IFOP. Quant au centre, eh bien Édouard Philippe avance tout doucement, ce qui n'est pas pour plaire à François Bayrou qui tente de rappeler qu'en 2021 encore, le centre, c'est lui. Après le journal de 19h, nous irons outre-Rhin puisque l'Allemagne fait le deuil de Mouti. À 67 ans, Angela Merkel quitte définitivement la chancellerie. Mais attention, elle ne part pas tout de suite. Mais nous aurons les premiers résultats d'ici quelques minutes. Nous saurons qui de Armin Laschet ou d'Olaf Scholz est le mieux engagé pour lui succéder. Nous nous pencherons aussi et surtout, j'allais dire, sur le rôle de ce fameux couple franco-allemand essentiel alors que la France prend la présidence tournante de l'Union en janvier et que nous aurons peut-être un nouveau président en avril. Débat abordé ce soir par Prisca Thévenot, bonsoir, porte-parole de La République En Marche, par Philippe Doucet, bonsoir.
Bonsoir.
Membre du Conseil National du PS, par Patrick Cara, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de la région Île-de-France et vice-président du Parti Libre, et Alexandre Devecchio qui comme toujours est un peu en retard.
Bonsoir.
Mais il a tentative d'imitation. Alexandre Devecchio par Patrick Caram, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Je signale également dans l'actualité Julian Alaphilippe, de nouveau champion du monde. Le cycliste s'est imposé à Louvain en Belgique en solitaire après une attaque décisive à 17 km de l'arrivée. Il est le premier Français à conquérir deux titres depuis le tout premier championnat du monde cycliste en 1927. En Formule 1, Lewis Hamilton s'offre le Grand Prix de Russie et rafle ainsi son 100e succès. Pour la peine, il reprend la tête du classement des pilotes. Belle prouesse aussi pour Max Verstappen sur Red Bull qui arrive deuxième après être parti dernier sur la grille après avoir été pénalisé pour l'accident d'il y a 15 jours à Monza. C'est l'Espagnol Carlos Sainz Jr. sur Ferrari qui complète le podium. Le foot cet après-midi, Clermont affronte Monaco et ce soir, 20h45, Marseille accueille Lens. Et puis une première dans un Parlement d'Europe, le Parlement d'Islande est désormais majoritairement composé de femmes. Elles occupent 33 des 63 sièges après les élections législatives d'hier. L'Islande conforte son statut de pays précurseur en Europe, le premier à avoir élu une femme chef de l'État. C'était en 1980. Vous êtes bien sur Europe 1 hein? Et il est 18h. Très bon début de soirée à tous.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneau.
Mais d'abord, passons donc une tête par Berlin, car les Allemands sont généralement très à l'heure. Quand on dit 18h, c'est 18h. Hélène Kohl, bonsoir. Vous êtes en direct
bonsoir. De
Berlin. Et on a, je pense, de tout premier résultat sur la personne qui pourrait succéder à Angela Merkel. Est-ce qu'on a une première tendance?
Écoutez, c'est annoncé à l'instant même, donc il y a quand même un tout petit peu de retard. Alors, on sait que c'est très compliqué, que ça va être extrêmement serré. Et donc, à l'instant T, vraiment, il faut être extrêmement prudent parce que les instituts de sondage, dans leurs projections, sont gênés par la part du vote par correspondance. On sait aussi que la participation a fait un bond et il y a du retard, notamment à Berlin, à cause des conditions sanitaires. Et donc, le Land de Berlin a décidé de continuer de laisser les gens voter. Donc, on n'a pas du tout de projection fiable à l'heure actuelle. J'arrive avec les chiffres. Mmh. À ce stade, très prudemment, le SPD mènerait d'un seul point autour de 25-26%. La CDU-CSU des conservateurs serait à 23-25%. 10 points derrière les Verts et les libéraux dans un mouchoir de poche. Dans ce contexte très serré, les extrêmes perdent du terrain. L'AFD reculerait de 2 points autour de 10%. Et l'extrême gauche de Die Linke diviserait son score par 2 autour de 5%.
Merci beaucoup Hélène Kohl pour ces premières tendances. On vous retrouve bien sûr pour de plus amples informations dans le journal de 19h. La succession de Merkel, nous on en parle dans les débats d'Europe Soir, dans la deuxième heure après justement ce grand journal du soir. Sonia Mabrouk recevait ce matin Éric Zemmour dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews en partenariat avec Les Échos. Première parole publique depuis le fameux débat contre Jean-Luc Mélenchon qu'on a évoqué ces deux derniers jours ici même dans les débats d'Europe Soir. Première question, est-il candidat ? Réponse, attention, tout en nuance.
Si je n'y allais pas, je décevrais à Yes beaucoup de gens, ça c'est sûr. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Ça tient, ça compte dans ma prise de décision. Oui, mais vous savez, tout peut arriver. Je choisirai mon moment. On va pas épiloguer trois ans. Je vais pas aujourd'hui vous dire je suis candidat, je suis pas candidat. Je choisirai mon moment. Après, voilà, on verra bien.
Mais s'il n'est pas encore candidat, a-t-il pour autant un programme ? Programme notamment, ça ne vous étonnera pas, sur les délinquants et les criminels étrangers. Comment les faire partir de France puisque c'est la volonté d'Éric Zemmour ? Par quels moyens ? Lui demande-t-on. Voici sa réponse.
Je propose, moi, qu'on supprime les mesures de solidarité nationale, c'est-à-dire le social de solidarité nationale, on va l'enlever aux étrangers. On le donnera qu'aux Français. Ça, c'est une deuxième chose qui peut faire partir beaucoup de gens et qui peut, en tout cas, peut décourager les gens de venir. Après, troisièmement, je propose l'expulsion de tous les délinquants étrangers emprisonnés. Ça fait quand même 25% des prisons, à peu près 15 000 personnes. C'est pas mal. Je propose aussi l'extension de la déchéance de nationalité pour de nombreux crimes et délits. Là aussi, on sait quels sont ces trafiquants de drogue, ces délinquants. Je propose de la déchoir de nationalité et de les expulser.
Voilà, et avant de vous donner parole à débat, chers invités, dernier point, puisqu'Éric Zemmour, les étrangers visés sont très majoritairement ceux du Maghreb, la différence entre islam, islamisme et musulmans.
On remarque toujours que je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Mais on ne remarque jamais que je fais un distinguo, en revanche, entre l'islam et les musulmans. Donc, qu'est-ce que c'est le distinguo ? C'est que l'islam, et vous le savez comme moi, est une religion de la théologie politique. Et en plus, c'est une civilisation, c'est une nation, c'est une umma, qui est, je le répète, incompatible avec les principes de la France. Mais les musulmans peuvent très bien se détacher de l'islam et avoir une pratique de leur religion que j'appelle, moi, avec tous les guillemets du monde, chrétienne.
Voilà, donc trois extraits de ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Donc en résumé, il décevra ou il décevrait certains, puisqu'il emploie le conditionnel lui-même, s'il n'est pas candidat. Il a des propositions fortes pour faire fuir les étrangers et sa volonté, toujours selon sa théorie de l'assimilation opposée à l'intégration, faire vivre les musulmans de France à la française et donc avec ce socle chrétien. Qu'est-ce que vous en pensez les uns des autres, Patrick Caram?
Alors... Très franchement, Éric Zemmour fait du Éric Zemmour. Il n'a pas encore endossé le costume du politique parce que c'est un intellectuel qui est aujourd'hui dans une construction d'un programme complètement théorique, complètement décroché de la réalité et qui se dit eh ben voilà ce qu'il faudrait faire. Mais pardon, qu'est-ce qu'il a prouvé toutes ces années de vie ? C'est vrai. Intellectuellement, il n'a aucun bilan politique. Il se compare à
c'est
Trump.
Grave, docteur.
Il n'a aucun bilan médiatique. Trump animait de grandes émissions télé et puis devenu milliardaire. Quel est le bilan ? Il est devenu milliardaire, Trump, parce qu'il a bossé pour ça. Quel est le bilan de Zemmour ? Eh bien, moi, je vais vous dire. Lorsqu'il fait cette confusion, ou plutôt cet amalgame entre islam et islamisme, il rend service aux islamistes. La vérité, c'est que il veut des musulmans, parce qu'il dit, voilà, les musulmans, il faudrait plutôt travailler avec les musulmans. Il sait très bien que s'il vise les musulmans, il se retrouverait au pénal. Vous savez qu'en droit, il a déjà été d'ailleurs condamné pour racisme, en droit, vous ne pouvez pas cibler une catégorie de population. Donc, quand vous parlez de religion, vous avez le droit de le faire. Et donc, lui, il dit islam, islamisme, dans la tête de ceux qui écoutent Éric Zemmour, c'est tous les musulmans qui sont concernés. Et il s'en défend en disant, ben non, les musulmans, eh bien, il faudrait qu'ils abandonnent l'islam. Est-ce qu'on dirait un catholique d'abandonner le catholicisme? Est-ce qu'on dirait un juif d'abandonner sa judaïté? Ça n'a pas de sens. Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il faut absolument faire un distinguo très net entre islam, islamisme, musulmans, islamistes. Il faut combattre les islamistes. Et dès 2015, j'ai écrit, je crois que c'était dans le Figaro Vox, un article dans lequel je disais, en substance, qu'il fallait interdire un certain nombre de mouvements islamistes, les frères musulmans, ils l'ont été en Égypte, pourquoi pas chez nous, les salafistes, les mouvements turcs qui portent un islamisme pro-Erdogan, c'est ça qu'il faut faire, et pas combattre nos compatriotes qui, eux, sont dans une autre démarche. Juste un mot dessus, quand vous rencontrez vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, vous avez beaucoup de noms, d'ascendance, origine du Maghreb, de l'Afrique noire, etc. Ils soignent les gens, ils sont dans nos hôpitaux, ils se sont aussi des médecins, ce sont également des policiers.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? 10%
des policiers sont d'origine étrangère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire à tous ces gens, vous n'êtes pas de bons Français parce que vous pratiquez une religion musulmane. Ça n'a pas de sens, il va créer les conditions
de la guerre civile.
Philippe Doucet, deux remarques. La première sur le lancement d'une campagne présidentielle, je pense qu'on pourra enseigner dans les écoles de politique le lancement de sa campagne présidentielle, parce que c'est le teasing permanent, c'est la publicité, demain j'enlève le bas, j'enlève le haut, ça va durer des semaines, et ça marche plutôt bien. Donc il faut le reconnaître, ce talent-là, comme lancement d'une campagne présidentielle. Voilà, donc ça fait monter le suspense. Donc il feuilletonne.
C'est original, mais ça fonctionne.
Ça feuilletonne, donc ça intéresse. Ça, c'est la première remarque. Sur le fond, quand on m'explique que M. Zemmour est quelqu'un de calé en histoire, franchement, je tombe de l'armoire sur tout ce qu'on entend. Sur la question de Vichy, c'est un pur scandale. Sur la question de Vichy.
On écoutera Éric Zemmour tout à l'heure sur Vichy.
Sur la question de Vichy, c'est une nouvelle fois totalement faux. Enfin, je veux dire, l'histoire de Pétain, le bouclier, de Gaulle, le glaive, tout ça, ça a été démontré 50 fois par des historiens tout en politique.
Il y a déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux ces déclarations au grand rendez-vous.
Le deuxième point, d'ailleurs, le débat était intéressant parce que la confrontation, y compris avec Sonia Mabrouk, sur la question de la lecture de l'islam et que, effectivement, on ne va pas demander à des Français de confession musulmane, on ne le demanderait pas à des chrétiens, à des protestants, à des juifs, de dire assimilez-vous en lâchant votre religion. Parce que Sonia Mabrouk, d'ailleurs, le rappelait dans l'émission à juste titre, il ne m'a pas semblé que c'était une gauchiste hallucinée, Sonia Mabrouk, donc de dire qu'il y a plusieurs lectures de l'islam et que, d'ailleurs, chaque personne peut faire sa lecture de l'islam et que
Sonia Mabrouk lui demande qu'est-ce que ça veut dire vivre à la française.
Vivre à la française, il y a ça. Et même sur la lecture de l'islam, c'est-à-dire que il pense que l'islam.
Et il répond, c'est marrant parce qu'il y a 30 ans, on ne m'aurait pas posé la question parce que tout le monde savait ce que c'était que vivre à la française.
Oui, mais d'accord, mais dans le monde d'aujourd'hui, vivre à la française, le Parisien, il ne vit pas obligatoirement de la même manière que quelqu'un qui est dans le Cantal, etc. Donc les modes de vie aujourd'hui
ont changé.
Ils sont très éclatés. Ils étaient déjà très éclatés hier.
Ils sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans.
Le temps d'avant, on vivait tous pareil. Aujourd'hui, on vivrait différemment. C'est pas vrai. Il y avait toujours des lectures, des modes de vie, de classe sociale, d'approche culturelle complètement différentes. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que là-dessus, il faut, sur toutes ces logiques historiques-là, franchement, c'est à peu près n'importe quoi.
Porte-parole de La République En Marche.
Oui, non, moi, je voulais réagir déjà sur le principe que C'est un candidat en campagne. Maintenant, on attend la déclaration officielle. Il faut être très honnête.
Non, mais honnêtement, qu'est-ce que ça changera ?
Ça ne changera rien. Il est en campagne, il l'est clairement. Il a une association militante, il a une association de financement. Il est en train de réunir les signatures. Je pense qu'en fait, il attendra tout simplement d'être sûr d'avoir l'ensemble de ses signatures pour se déclarer. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça a condamné ? Voilà, effectivement, c'est pour ça l'association de financement. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça a condamné ? Non, il est une personne en campagne. Point. Ensuite, moi, ce que j'interroge plus, c'est qu'en fait, on est en train d'assister à un appauvrissement du débat. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même 3 semaines qu'on parle du sujet, soit des prénoms, soit de l'islam des immigrés, mais on ne parle absolument pas de politique migratoire. On ne parle absolument pas d'économie. On ne parle absolument pas d'environnement. On ne parle de rien de tout ça, mais en revanche, on peut noter...
On parle de politique migratoire quand Éric Zemmour propose de vider les prisons des étrangers...
C'est une politique,
c'est une proposition. Moi, je suis pas là pour juger.
Non, mais justement, ce n'est pas le début d'une politique. Enfin, c'est pas une réflexion complexe sur le sujet. Et c'est ça que je suis en train de dire. On est en train d'appauvrir le débat sur ça. On le fait, et c'est très bien, parce que ça emmène quand même des sujets. Mais par contre, on oublie de commenter quelque chose qui est important, et on l'a fait un petit peu la semaine dernière. C'est l'événement où il a été serré la paluche de Viktor Orban. Oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important sur le sens de sa candidature, qu'on n'arrive pas vraiment à revoir et qui reste flou. Même on l'a vu ce matin avec Sonia Mabrouk, elle essaie de le faire parler, elle n'y arrive vraiment pas. Viktor Orban, c'est quoi ? C'est revenir sur le droit des femmes, le sujet de l'avortement, c'est le sujet de la communauté LGBT, c'est le sujet de l'appartenance à l'Europe, c'est le sujet de la laïcité. Et c'est tous ces sujets-là, quelque part, c'est notre socle républicain, c'est notre base.
Mais est-ce que ce n'est pas une volonté, justement, d'Éric Zemmour ? Au contraire, justement, de dire, ben voilà, moi, j'adhère à ça et c'est mon programme.
Et bien, c'est en ça que je trouve que malgré tout, c'est malhonnête. Parce que quelque part, son discours depuis un petit moment, là, c'est dire, moi, j'incarne la France. Moi, je veux l'union. Et avec tout ce qu'on vient de se dire juste avant, on vient bien de se rendre compte que ce n'est pas incarner la France, puisqu'il nous propose une autre France, une nouvelle France. Donc je pense que s'il veut aller dans le fond de sa démarche, moi, je ne suis pas là en train de dire, attention, il faut qu'on arrête de parler de Zemmour. Pas du tout. Il est à 11% des sondages. Il faut qu'on en parle. C'est important. Et ça serait vraiment manquer de respect à beaucoup de Français. Mais par contre, qu'il soit honnête sur sa démarche. Il veut une autre France et parlons de
Alexandre
cette France.
Bon, non, plusieurs choses. Est-ce qu'il est candidat ou éditorialiste ? Je pense qu'il est tout simplement en transition et qu'il le joue sur le temps. Hein. Mais comme tout autre candidat, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait révélé son programme très très tard dans la campagne. Il avait commencé par les grandes orientations.
Il s'était déclaré plus tôt.
Il s'était déclaré plus tôt, oui, peut-être un peu plus tôt. Mais en tout cas, Éric Zemmour là, doit gérer sa mue. Et il est en train de faire une mue qui est, à mon avis, partielle. Puisque là, on a vu l'interview de ce matin, beaucoup de choses où il était encore obligé d'être sur un terrain théorique et d'expliquer en fait certaines de ses positions d'éditorialiste qui avaient été mal comprises ou sciemment mal interprétées. J'y reviendrai. Donc il y a ça et en même temps, il commence, on le voit, à émettre quelques propositions. Mais je pense qu'il est conscient que le temps doit jouer en sa faveur, que s'il sort toutes ses propositions... tout de suite, bien au mois de décembre, peut-être qu'il y aura un candidat de droite, apparemment. Et donc, peut-être Éric Zemmour sera déjà épuisé. Donc, je pense qu'il a cet agenda-là en tête. Donc, il va se déclarer sans doute en novembre, ce qui lui permettra de continuer à capter la lumière quand il y aura un candidat de droite. Et ensuite, il va dérouler son programme. Tout ça est finalement assez classique. J'entendais Patrick Caram dire qu'il n'a pas de bilan. Sans doute, c'est vrai. Moi, je pense que c'est son énorme point fort. La droite, la gauche, le centre ont un bilan. Hélas, on le connaît. Ils ont échoué, notamment sur les questions... qui diront certains obsèdent Éric Zemmour, mais qui préoccupent quand même fortement un certain nombre de Français, l'islam, l'immigration, l'intégration. Le bilan est mauvais, notamment celui de Nicolas Sarkozy, qui avait dit qu'il passerait le cachère, ça lui avait permis d'incarner une forme de politiquement incorrecte, et les résultats n'ont pas forcément été là. François Hollande, il y a eu les vagues d'attentats terroristes, et Emmanuel Macron, sur le régalien, il commence à en parler, mais il a toujours été mal à l'aise sur ce sujet-là. Donc le fait de ne pas avoir de bilan, à mon avis, pour Éric Zemmour, ça lui permet de dire, vous avez tout essayé, essayez-moi, et même face au Rassemblement National qui apparaît presque comme un parti du vieux monde aujourd'hui, je pense qu'il y a l'attrait de la nouveauté, c'est un avantage.
Alors, justement, sur ce point-là, je vous coupe, Alexandre, parce que justement, sur les Républicains, il regrette, Éric Zemmour, qui n'ait pas fait grand-chose sur tous les thèmes, j'allais dire sécuritaires, au sens large, et il dénonce leur impuissance.
Je pense que si le Front National, le Rassemblement National a aussi progressé, autant progressé, c'est parce que justement, le RPR a été nié, trahi. Mathieu, vous m'avez toujours dit que mon livre fondateur, c'était le livre noir de la droite, que j'ai écrit en 98. Et effectivement, dans ce livre, qu'est-ce que je disais ? Je disais comment le RPR, comment le gaullisme, comment le chiracisme avait trahi le gaullisme, comment le chiracisme avait trahi la droite, comment aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est devenu LR. C'est un parti de notables centristes qui, après, prétendent que je ne partage pas leurs valeurs. Mais eux-mêmes, en quoi partagent-ils les valeurs du RPR et de la droite d'avant ? Non, ils ont eux-mêmes trahi le général de Gaulle et même Georges Pompidou.
Voilà. Patrick Caram, vous sentez visé ? Vous avez trahi le général de Gaulle ?
C'est drôle. À quoi Éric Zemmour ? Très franchement, on a l'impression que finalement le monde tourne autour de lui, que les autres n'ont rien fait, rien inventé, qu'il est lui, celui qui pense tout. Et c'est celui autour duquel se cristallise, s'est cristallisé toutes ces dernières années, toute la pensée politique de la droite, très franchement.
Non mais justement, alors,
on attend de lui bientôt une déclaration disant qu'il allait marcher sur l'eau. Non mais... Franchement, moi, ce qui m'ennuie.
Quand Alexandre Devecchio dit, il y a des propositions de Zemmour qui pourraient, si elles apparaissent, être reprises par la droite.
Mais vous savez, la droite oscille régulièrement sur une politique sur l'immigration, une politique pénale sur la double peine.
Vous verriez les yeux de Prisca Thévenot pendant que vous parlez.
Non, ce que je veux dire, c'est que il faut le dire maintenant. Ça suffit. C'est pas la droite qui a trahi. C'est pas les républicains qui ont trahi la droite. Moi, j'appartiens au Parti libre et je suis en réalité quelqu'un d'une sorte d'électron libre. C'est Éric Zemmour qui trahit la France. Parce que qu'est-ce que c'est que la France ? On va se dire la vérité maintenant. Moi, je suis un enfant de la France. Je suis d'origine étrangère. Je serais gardien de chef, je l'ai déjà dit, si mes parents n'étaient pas venus en Guadeloupe. Je suis totalement guadeloupéen, avec un ancrage guadeloupéen. Quand vous écoutez Zemmour, la France qu'il a dans son imaginaire, c'est une France étriquée. Une France limitée à l'Hexagone, une France limitée à la métropole pour lui, une France blanche. C'est un problème. L'outre-mer n'existe pas dans cette vision-là. Les Français d'outre-mer, c'est autre chose. Il y a des cultures régionales. Pardon de vous le dire.
Prisca Thévenot, dites-moi pourquoi est-ce que vous levez les yeux au ciel.
Non, mais j'entends tout ce que vous dites, Patrick Caram, et je suis d'accord avec sur cette vision. Il n'y a pas de débat et je souscris à 100%. Par contre, il faut aussi pouvoir regarder le phénomène, parce que c'est un phénomène, le phénomène Éric Zemmour. Et force est de constater, je ne dis pas forcément libre ou quoi que ce soit, mais je dis force est de constater qu'à droite, on a eu des sorties qui ont étonné. On a eu Éric Ciotti. Non mais attendez, je ne parle pas pour vous, mais je parle de manière générale. Oui. On a eu Éric Ciotti. Ouais.
Éric Ciotti qui était avec Zemmour cet après-midi.
Voilà, on a eu...
Je veux vous dire sur quoi aujourd'hui Zemmour fait sa politique.
Non mais ne l'interrompez pas.
Attendez, je finis juste, en plus, ce n'est même pas par rapport à vous. Mais on a eu Éric Ciotti, on a eu ce week-end M. Jacob aussi, qui a aussi une démarche sur ça. Donc je veux dire que ça pose aussi beaucoup de sujets. Et donc finalement... On a le phénomène Zemmour qui finit par vampiriser le débat politique et tout le monde a l'impression de courir après Zemmour. Donc je pense qu'il faut aussi se poser une question sur ça.
Non mais ça c'est d'ailleurs, votre petit jeu à vous les macronistes. Zemmour
c'est pas un jeu, ça c'est un jeu républicain. C'est un jeu républicain, on devrait être unis dans ce sujet-là.
Sur votre échec, sur l'échec d'Emmanuel
Macron. On devrait être unis sur ce sujet-là.
Échec sur l'immigration, échec sur la sécurité, échec sur la laïcité, échec sur les valeurs.
C'est
sur
ça qu'il faut faire.
Franchement vous pouvez pas dire ça parce que la preuve,
pardon monsieur.
Puisqu'il y a la cacophonie, chers amis, je marque une pause et on revient juste après avec Patrick Caram, avec Prisca Thévenot, Philippe Doucet et Alexandre Devecchio. À tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre Devigneau.
18h23, retour sur le plateau d'Europe Soir avec la porte-parole de La République En Marche, Prisca Thévenot, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France et Philippe Doucet, membre du Conseil national du Parti Socialiste. Résumé des épisodes précédents, on était en train de faire le débrief de l'intervention d'Éric Zemmour ce matin. Au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, avec des propositions, on les a entendues. Est-ce qu'on peut appeler ça des propositions ? En tout cas, ce sont des propositions, on va dire, assez fortes. On en était au fait que Patrick Caram et Prisca Thévenot n'étaient pas d'accord sur le bilan macroniste, justement, des propositions sécuritaires. Patrick Caram, je vous ai coupé, alors je vous redonne la parole.
Merci. Sur l'immigration, il faut être très clair. On a péché par excès d'angélisme. Aujourd'hui, nous avons un sujet. Nous permettons à des vagues d'immigrés de venir s'installer en France. Nous n'avons quasiment pas d'expulsion. Je le vois, la moitié des expulsions dont se targue le gouvernement, ça vient de Mayotte. Et encore. Et on voit bien que ça pose un sujet, cette immigration qui n'est pas contrôlée. C'est un fils d'immigré qui vous le dit. Sur l'identité nationale, je vous ai entendu tout à l'heure, monsieur le sénateur, nous expliquer que la France évolue. Pardon, il faut que la France reste la France. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on devra faire évoluer nos valeurs. Nos valeurs.
Je n'ai pas dit que je voulais que la France devienne les valeurs. Je n'ai jamais dit ça.
Une identité. Une identité peut-être régionale, mais cette identité régionale s'insère
même pas
dans
un
mode national qui
on
est
va faire
plus
un
grand.
Fact-checking
ah,
sur
non, 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 on
sur
peut pas prêter des propos, je tiens pas, mais c'est
mais oui, mais réécoutez-vous.
Non, alors, mais je l'aurais dit, je sais parfaitement ce que je pense.
On va réécouter la banque.
On va
demander à Guillaume Lorgane de repasser.
Laissez-moi vous dire une chose sur nos valeurs. Moi, j'ai pas envie que toute cette immigration change notre façon de voir et de concevoir le monde. Rapport avec la femme, égalité femme-homme, la question des homosexuels, la question des plus faibles.
Vous voulez
dans
vous
nos démocraties. Ce que je veux dire, c'est que il y a un sujet aujourd'hui qui n'est peut-être pas forcément abordé autrement que par des caricatures telles que le fait Éric Zemmour en pointant du doigt les noms,
en fait, ce qui
noms,
vous gêne, c'est que
prénoms.
C'est Éric Zemmour qui aborde
non,
ce
non,
sujet
pas,
et pas
bah
les
oui.
autres.
Mais, pas du, mais le problème, bah c'est
si,
que
ça
les,
vous
autres,
gêne,
les autres abordent ce sujet, vous ne les entendez pas. Valérie Pécresse a abordé ces questions d'immigration de manière très claire à la région. La question de la sécurité, on l'a pris à notre charge en multipliant par 4 le budget de la sécurité de la région.
Alexandre
on a fait le job.
Philippe Doucet veut répondre d'abord
mot,
et ensuite Alexandre.
Non mais dernier mot dessus, il faut qu'à un moment donné, le débat s'arrête autour de Zemmour. C'est pas Zemmour qui donne le là de
c'est
la vie politique française.
Ça vous gêne que ce soit Zemmour
qui non, on en parle autant.
Donc Éric Zemmour,
que les médias lui donnent autant d'importance.
D'accord, mais enfin ça c'est une réalité. On va pas, voilà, le phénomène médiatique il est là parce qu'il y a un phénomène d'opinion publique. Autrement, s'il était à 3% dans les sondages ou à 2, personne n'en parlerait. Ça c'est le premier point. Derrière, faut pas me prêter des propos sympas. Moi je suis pour la question de l'universalité et je constate que la France elle est diverse depuis longtemps. Vous-même, vous avez évoqué les territoires d'outre-mer. Tout le monde sait bien que c'est une partie de la France et on ne vit pas de la même manière en Guadeloupe que dans le Cantal. C'est une réalité. Derrière, après, la question que te pose Zemmour, et je partage ce que disait Prisca Tello, c'est que derrière, ça nous oblige, nous, ce qu'on n'a peut-être pas assez fait, hein, y compris à gauche, de se dire, voilà, nous, notre vision de la France, c'est celle-là. Parce qu'il y a une demande de sens dans cette élection présidentielle. Parce que finalement, c'est vrai, vous avez raison. Lui, il n'est pas porteur d'un bilan. Donc, on peut discuter du nombre de policiers, etc. Les Français, ils veulent du sens. Où est-ce qu'on emmène le pays? Parce que finalement, une élection présidentielle, c'est où est-ce qu'on emmène la France du point A au point B pendant 5 ans. Donc, nous, à gauche, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Qu'est-ce qu'on porte sur l'universalisme républicain? C'est quoi la République que nous voulons dans les contraintes du monde d'aujourd'hui, les contraintes de l'Europe, les contraintes d'immigration? On peut parler immigration. Boris Johnson, il a rouvert là des visas parce qu'il n'a pas de travailleurs étrangers pour conduire les camions. Donc ils ont fait le Brexit pour dire tous les étrangers, tous les Polonais, rentrez chez vous. Et là, ils donnent 10 000 visas parce qu'il leur manque 100 000, d'après les estimations britanniques, oui, oui. 100 000 chauffeurs routiers pour que oui. les camions puissent être livrés.
Voilà, quand il parle polonais depuis.
Voilà. Donc du coup, quand il évoquait Éric Zemmour, toujours cette logique d'histoire que les Italiens étaient rentrés chez eux, que sur 3 millions d'Italiens, il y en avait 2 qui étaient rentrés chez eux. Aujourd'hui, plus personne ne rentre chez eux. Vous avez demandé à quelqu'un qui arrive du fin fond de la Centrafrique, etc., de se dire j'ai rentré chez eux dans des pays qui sont en guerre, dans des pays qui sont complètement déstructurés. Les Italiens, ils sont rentrés chez eux après la Seconde Guerre mondiale parce que l'Italie a connu une croissance économique. Faites de la croissance économique partout en Afrique, vous verrez que les gens n'ont pas particulièrement envie de quitter le Mali, la Côte d'Ivoire ou que sais-je. Donc du coup, c'est ici parce qu'il y a de la montagne de pauvreté que les gens y bougent et qu'ils savent qu'à 2000 km, il y a une possibilité de travailler, de faire réussir sa famille. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ouais. on n'est pas... Les seuls qui rentrent aujourd'hui, je vous le dis en tant qu'ancien maire d'Argenteuil, ouais. c'est les Portugais. C'est les Portugais qui rentrent parce qu'ils font la navette entre le Portugal, où ils ont leur famille, leur maison, et la France où ils travaillent, ils font les allers-retours. Vous voyez, donc du coup, tout ça bouge. Donc, mais à nous de balayer devant notre porte. Travaillons sur l'universalisme républicain.
Plusieurs choses sur la droite. Moi, ce que j'observe quand même sur ces questions-là, alors Valérie Pécresse a peut-être fait des choses à la région, mais j'ai vu plusieurs candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle à droite quitter le parti parce que Laurent Wauquiez tenait peu ou prou exactement le même discours qu'il soit en train de tenir aujourd'hui. Donc, pourquoi Valérie Pécresse tenait un certain discours il y a quelques années, pourquoi elle en tient un autre aujourd'hui? Même chose pour Xavier Bertrand, encore plus pour Michel Barnier, qui maintenant est un eurosceptique, alors que toute sa carrière politique, il a été un fervent européiste. Donc là, il y a des contradictions dans lesquelles nage la droite. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas Valérie Pécresse, ça fait 40 ans
que ça dure.
Vous dites
que ce n'est pas vous parce qu'il est à côté de vous, vous n'avez pas envie de faire taper.
Non, en plus, Patrick Arane fait partie de ceux qui ont été plutôt cohérents. Alors là, il est engagé dans la présidentielle aux côtés de Valérie Pécresse. Donc,
qui n'est pas cohérente, si je comprends
bien.
Il
fait campagne, mais il a été le premier souvent à pointer les contradictions de son propre camp. C'est quelque chose voilà, qui existe depuis très longtemps. L'UDF n'est pas la même chose que le RPR. Et là, je rejoins Éric Zemmour. Et souvent, le RPR gagne l'élection présidentielle avec un programme plutôt bonapartiste, et ensuite c'est plutôt l'UDF qui dirige. Et cette contradiction-là, je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ne la supporte plus. Et là, je pense que Éric Zemmour fait le bon diagnostic et c'est l'un des ressorts de son succès, qu'on le veuille ou non. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit sur Éric Zemmour et sur sa vision, parce que je n'entends pas toujours la même chose que mes camarades autour de la table. Je ne suis pas le porte-parole d'Éric Zemmour, mais je n'ai pas compris la même chose. Simplement, quand on dit Éric Zemmour veut une France blanche, il ne parle jamais d'ethnie, Éric Zemmour, il parle d'assimilation, lui-même a une famille qui est originaire d'Algérie. Donc je ne vois pas un discours d'un nationalisme ethnique. Il est un nationalisme assimilationniste, mais on n'est pas dans une logique
ethnique. Il oppose l'assimilation à l'intégration.
À l'intégration, parce qu'il juge qu'il ne suffit pas de venir, de s'insérer professionnellement, qu'il faut aussi prendre une partie des valeurs de la culture du pays d'accueil.
Vivre à la France.
Moi, pour l'instant, c'est ce que j'ai entendu d'Éric Zemmour. Ouais. Alors, il le dit peut-être de manière brutale et obsessionnelle, mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Sur l'islam, effectivement, on peut penser que c'est une meilleure stratégie pour aider les musulmans modérés à gagner la bataille, de différencier islam et islamisme. Mais on nous dit... les autres religions, on n'a jamais demandé aux juifs d'abandonner leur religion. D'abord, ils ne demandent pas aux juifs ou aux chrétiens ou aux musulmans d'abandonner leur religion, ils leur demandent d'avoir une pratique, il est assez précis, compatible avec la France. Et c'est exactement ce qu'on a demandé aux Juifs. C'est exactement ce que Napoléon a demandé aux Juifs au moment du consistoire. Et du reste, c'est pareil avec les catholiques. Je vous rappelle l'histoire. Il y a eu la Révolution française, la loi de 1905 ne s'est pas faite toute seule, il y a eu un combat, on leur a dit, maintenant les catholiques, c'est telle pratique, parce que la République, il faut que vous adaptiez à la République. Donc, c'est la même chose que demande
Éric
Zemmour.
En fait, il devrait demander une nouvelle loi de 1905 pour les autres religions.
En quelque sorte, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas candidat à la présidentielle. Mais ce que je note, c'est ça qu'il est en train de demander.
Il va au-delà, sur l'islam.
Aux musulmans.
Parce que s'il proposait que c'est pas que pour les musulmans. Que ça soit le consistoire.
Donc voilà, quand j'entends...
Je ne suis pas sûr que Napoléon était pardon sur l'histoire des prénoms.
Quand j'entends qu'il demande aux musulmans d'abandonner leur religion ou de devenir... Enfin, c'est pas ce qu'il dit. Donc à un moment donné, il faut entendre ce qu'il dit. On peut être en accord ou en désaccord, mais en tout cas, il ne dit pas que tous les musulmans sont des islamistes. Il dit simplement qu'il y a des musulmans qui pratiquent différemment l'islam et qui dans l'islam, à l'intérieur des textes. Moi, je ne suis pas théologien, mais il y a d'autres théologiens qui le disent, le recteur de la mosquée de Paris le dit, que dans les textes, il y a des choses qui sont problématiques par rapport aux pratiques et à la société française. Et le recteur de la mosquée de Paris dit lui-même que oui, il faut un islam de France compatible avec la République française.
Oui.
Donc
c'est
bien l'islam et c'est pas seulement les islamistes.
Non mais pardon, mais c'est pas ce que dit Éric Zemmour. L'histoire du consistoire.
Ce que j'ai entendu.
Non mais se dire qu'on a par exemple un islam de France, on comprend, on pourrait utiliser l'Alsace-Moselle qui est encore sous concordat.
Ou un islam français.
Donc, un islam français, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, qu'on puisse intégrer ça. Mais il y a des réflexions, il y a des propositions qui ont été faites dans ces affaires-là. Ça ne veut pas dire que quand on a fait ça sur les Juifs au moment de Napoléon, on ne leur a pas demandé de changer leur prénom.
Bah, voyez donc, précisément,
la loi de 1803, c'est pour qu'il n'y ait pas Marat comme prénom.
Je n'irai pas forcément jusqu'au changement de prénom. Voyez, mais pour l'instant, il dit... Il faut avoir une discussion en vérité. Les musulmans ne sont pas des enfants. Ils peuvent entendre qu'il y a des choses dans leur religion qui posent problème. Et ils peuvent entendre qu'il y ait des pratiques spécifiques à la France.
Puisqu'il y a confusion, je vous propose de réécouter justement ce point-là.
On remarque toujours que je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Mais on ne remarque jamais que je fais un distinguo, en revanche, entre l'islam et les musulmans. Donc, qu'est-ce que c'est le distinguo? C'est que l'islam, et vous le savez comme moi, est une religion de la théologie politique. Et en plus, c'est une civilisation, c'est une nation, c'est une umma, qui est, je le répète, incompatible avec les principes de la France. Mais les musulmans peuvent très bien se détacher de l'islam et avoir une pratique de leur religion que j'appelle, moi, avec tous les guillemets du monde, chrétienne.
Voilà ce que dit Éric Zemmour ce matin sur Europe 1.
Que non, mais en réalité.
Chrétienne. Non, mais vous avez entendu.
Pardon, monsieur
de
Vecchio, mais vous imaginez, si vous voulez emmener. Qu'on ait ce débat-là, y compris avec les Français de confession musulmane, allez dire, vous rencontrez l'ensemble des imams de France, vous leur dites, voilà, on vous propose de passer de l'islam à la conception chrétienne de l'histoire. En termes de logique, d'approche, de discussion, je ne pense pas que ça soit une très bonne entrée.
Je peux vous répondre gentiment parce que je ne suis pas du tout porte-parole
d'Éric
Zemmour.
Mais on ne le prend pas, et quand
vous avez une autre lecture, vous avez le droit à l'écrire.
Mais là, on a la même lecture, là, on dit la même chose.
C'est quoi la pratique chrétienne?
L'approche n'est peut-être pas n'est peut-être pas la bonne, mais c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Et ensuite, moi, je pense que là, il a un problème. Il est encore dans son rôle d'intellectuel. Quand il dit un islam chrétien, il entend par là que dans le christianisme, on rend à César ce qui est à César et Dieu est Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il sous-entend que l'islam doit faire pareil et doit se séculariser. Simplement, c'est vrai que quand il parle d'islam chrétien, ça peut être mal compris, y compris par une partie des croyants. Et on peut le comprendre un peu bêtement, ou parfois honnêtement, mais vous, par contre, je pense que vous l'aviez bien compris, on peut l'entendre comme « devenez catholique ». Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « sécularisez-vous ». Voilà ce qu'il dit, mais il devrait dire autrement, ne serait-ce que...
Vous avez la bonne remarque, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dans un débat. Quand vous faites, là, il n'est plus éditorialiste, il est politique.
Mais ça, c'est un
moment
problèmes,
donné,
des
la
problèmes
politique,
qui va
ça veut dire vous emmener des citoyens sur un chemin de A à B. Et là, il fait ce qui m'a frappé. Ce matin, il est encore éditorialiste.
On est d'accord, et ça va être un problème
politique.
Et ça va être un problème pour lui. Mais ne faisons pas croire qu'il demande aux musulmans de se convertir au catholicisme.
Alexandre Devecchio, on sait très bien, et je vous écoute souvent, je vous lis beaucoup, parce que je trouve que vous avez une réflexion très juste sur la société française. Mais vous ne faites pas l'erreur que fait Zemmour. Zemmour, lui, tombe en plein dans le piège tendu par les islamistes, parce que le discours islamiste en France et dans le monde... C'est vous, les musulmans, vous êtes les victimes de l'Occident, vous êtes les victimes de la France. Et en tenant ce discours-là, il pointe en plein ce discours-là, il crédibilise ce discours. Moi, je vous fais remarquer juste que l'Oumma, il a parlé d'Oumma. Vous savez c'est quoi l'Oumma ? Cette grande nation musulmane.
Oui. C'est pas une nation, c'est la communauté des croyants. C'est pas une nation.
Non, mais cette grande nation, communauté de croyants et une grande nation. Ça veut dire pas de différence entre eux. Mais pardon, allez lire mon livre Dictionnaire mondial de l'islamisme, on en reparle sur les définitions.
Non, mais si
moi, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que les pays musulmans qui n'arrêtent pas de s'affronter. Vous avez regardez ce qui se passe aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie qui ferme ses frontières aériennes. Regardez, j'étais au Tadjikistan. Au Tadjikistan, vous avez au Kirghizistan, vous avez deux communautés, les Kirghizes et les Ouzbeks. Ils se faisaient la guerre des bons musulmans contre les mauvais musulmans. Ce que je veux dire, et vous avez cette confrontation entre islam chiite et islam sunnite. Ce que je veux dire, c'est que l'Oumma dont on parle dans le Coran, dans la religion musulmane, c'est un fait théorique. Ce que nous souhaitons et ce qu'il faut demander aux imams en France, c'est que tous ceux qui entrent en contradiction avec notre culture, notre
c'est
identité,
exactement ce qu'il dit,
qu'il abandonne, les abandonne. Il faut contextualiser
exactement
l'islam.
Ce qu'il dit, Patrick.
C'est un islam qui doit être un islam de France pas un islam en France. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est que ceux qui portent la logique de l'islam en France, ça veut dire cette oumma-là, on ne les expulse pas. C'est cela qu'il faut foutre le plus vite
si
possible.
Si vous voulez contextualiser l'islam, sauf si tout le monde autour de la table en fait théologien, c'est une question théologique. Donc le problème, c'est que dans l'islam, il n'y a pas une église qui fait Vatican, Vatican II pour ajuster, sortir de l'antisémitisme, purger un certain nombre de choses. Il n'y a pas cette dimension-là. D'accord ? Donc peut-être que derrière... Et le gouvernement, les différents gouvernements, d'ailleurs, puis Jean-Pierre Chevènement, essayent de travailler autour de ce Conseil français du culte musulman pour qu'à un moment donné, il puisse y avoir une évolution théologique. Mais pour avancer dans cette évolution théologique, il faut qu'il y ait un lieu, c'est l'intérêt de Strasbourg, puisque c'est là où il y a le concordat. Et comment vous organisez ça ? Vous voyez, on ne peut pas rentrer dans un débat théologique. Parce que quand vous dites, M. Devecchio, est-ce qu'on rendra à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu ? Oui, mais ça, c'est une lecture chrétienne qui n'existe pas dans la logique de l'islam. Ça fait partie des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'affronter, il ne faut pas l'aborder.
Vous voyez bien que c'est des questions complexes.
C'est des questions complexes. On ne peut pas y arriver avec une vision tout simple.
Non, mais excusez-moi, j'étais à l'hasard. J'ai parlé devant plus de 2000 imams qui venaient du monde entier. C'était le Rassemblement mondial d'Al-Azhar. J'ai posé la question au grand imam d'Al-Azhar. Les frères musulmans qui vous ont attaqué à l'époque d'Al-Sisi, Al-Sisi qui est un frériste, qu'est-ce que vous en avez fait ? Ils sont encore à Al-Azhar, il ne peut pas les virer. Les salafistes, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont encore à Al-Azhar. Ce que je veux dire, c'est que dans la grande mosquée d'Al-Azhar, qui représente différents courants, vous avez ces courants extrémistes. Le problème en France, c'est que nous ne pouvons pas les accepter. Et donc, quand vous dites qu'il y a un débat théologique, il faut le trancher. L'État dit, voici les lignes rouges. Et ceux qui franchissent ces lignes rouges, eh bien, ils n'ont pas droit de citer. Ils ne peuvent pas enseigner, ils ne peuvent pas... moi je plaide pour que les frères musulmans soient déclaré illégal. Les salafistes, illégal. Tout l'islamisme turc, illégal. Voilà ce qu'il faut faire.
La même chose.
Comprenons les choses par le bon bout.
On dit la même chose. Et puisqu'on dit la même chose, je marque une pause et on revient dans un instant dans les débats d'Europe Soir.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Europe Soir avec Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche, Alexandre Devecchio, mon confrère du Figaro, avec Patrick Caram, le vice-président libre de la région Île-de-France, et Philippe Doucet, membre du Conseil national du Parti Socialiste. On reprend les moments clés de cette interview d'Éric Zemmour ce matin au grand rendez-vous Europe 1 CNews. Séquence d'Éric Zemmour lorsqu'est remis sur la table le sujet Pétain. Vous noterez cette conclusion dans le sonore que vous allez entendre. Il aborde la culpabilisation des Français qui, selon lui, est le vecteur d'impossibilité de gérer les crises migratoires et les expulsions.
Spontanément, je suis plus du côté de Gaulle que de Pétain. En plus, moi, le régime de Vichy a ôté à ma famille la nationalité française. Donc, ça m'amuse qu'on me traite de vichiste. Mais, si vous voulez, c'est toujours mon combat contre la repentance et que la culpabilité. Je pense qu'il faut en finir avec cette notion, il faut en finir avec ces criminels, vous comprenez. Et on essaye de culpabiliser le peuple français en permanence. Et pourquoi on essaie de le culpabiliser? Pour justement qu'il accepte et qu'il se soumette à l'invasion migratoire et à l'islamisation du pays.
Voilà, pour ces déclarations, qu'est-ce qu'on en pense, Patrick Caram?
Oui, justement quand même, c'est un masochiste de première. Il dit que Pétain a enlevé à sa famille la nationalité française et dans le même temps, il défend Pétain. Et il le fait sur une sorte de subterfuge intellectuel. Ça, là encore, ce n'est pas un politique. On voit bien que c'est encore un intellectuel à la recherche d'arguments politiques. C'est lutter contre la culpabilisation. Moi, je suis très clairement d'accord avec l'idée qu'il ne faut jamais accepter la culpabilisation. Je l'ai toujours défendu. Je l'ai défendu dans mes écrits. Je l'ai défendu dans mon parcours politique. Je l'ai défendu dans mon engagement. Mais il y a un moment donné aussi où vous ne pouvez pas balayer d'un trait de plume l'histoire de la France. L'histoire de la France, c'est aussi des pages sombres. Et il faut pouvoir rappeler...
Et
une mémoire douloureuse. Simplement, il ne faut pas confondre des choses comme Macron, par exemple, qui va innover en disant que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Alors, si la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, c'est quoi l'esclavage? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Et lorsqu'on finit par faire ça, lorsqu'il finit par donner du grain à moudre à ceux qui considèrent qu'on va trop loin dans cette espèce de, ils appellent ça repentance. Et parfois c'est de la repentance, effectivement ça finit par lasser tout le monde. Non, il y a une mémoire qu'il faut avoir, il y a des séquences mémorielles à avoir, il faut se garder par contre de passer le cap et d'aller vers la victimisation, vers la culpabilisation, avec toujours comme cible, comme cœur de cible,
les Français de souche. Ça veut dire qu'il y a deux degrés de culpabilisation?
Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilisation à voir. Une histoire se raconte, il se raconte sur un ensemble.
On mélange culpabilisation et devoir de mémoire, c'est ce que vous dites.
Il ne peut pas y avoir de culpabilisation, c'est ce que je dis. Il y a une mémoire qu'on doit avoir.
Philippe Doucet.
Par exemple, sur l'esclavage, il y a une mémoire à avoir. À aucun moment, ça ne doit conduire les Français d'aujourd'hui à se sentir coupables de quoi que ce soit. Ils ne sont pas coupables, eux, de quoi que ce soit.
Non, mais moi, derrière, je ne vois pas en quoi un pays s'abaisse à reconnaître ses pachons de son histoire. Là, il y a eu récemment la question des harkis. Franchement, qu'on reconnaisse que la France, l'armée française, l'État français n'a pas été, mais même pas le minimum de respect par rapport aux harkis qui sont des soldats. Enfin, franchement, tout jeune, quand je lisais les livres d'histoire, on les a lâchés sur le quai le long des bateaux. Les officiers ont dit « Vous pouvez monter », d'autant d'ailleurs il y a des officiers qui ont désobéi aux ordres parce que c'était leurs soldats. Et après, on les a laissés croupir pendant 30 ans dans des camps. Franchement, reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur, moi, c'est juste nous honorer et les honorer. Ce n'est pas se culpabiliser par rapport à ça.
Le président de la République a pris ça sous le petit bout de la lorgnette. Il a parlé
mais je m'en fiche.
A oublié du massacre des harkis par les Algériens. Mais il a oublié le massacre des Pénois.
S'il vous plaît, monsieur Caram,
moi, je ne suis pas... Je suis le plus total. Et pas simplement le petit homme qui conduit, effectivement, toujours la même chose.
Peu importe, moi je ne suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron, je laisserai Prisca Prévenot a fait ça très bien. Le sujet, ce n'est pas ça.
Le sujet, c'est exactement
donc,
ça.
Le sujet, c'est qu'il peut y avoir le débat sur la question du FLN, l'Arki, mais nous, on n'est pas l'État algérien, on est l'État français. Donc nous, on balaye devant notre porte. Si l'État algérien ne veut pas balayer devant sa porte, c'est son problème. Nous, on balaye devant notre porte.
Toujours à sens unique, alors.
Mais ce n'est pas mon sujet. Mais je m'en fiche de l'État algérien. Mais
non,
je me fiche de l'État algérien. Ce qui m'importe, c'est nous, c'est notre nation. Ce qui compte, c'est notre nation.
Pardon, l'histoire ne se découpe pas en saucisson.
Mais l'histoire de France ne se découpe pas en saucisson, mais moi, je ne suis pas responsable de l'État algérien.
Qu'est-ce qu'il y a Thévenot là-dedans?
Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. c'est que oui, il faut en finir avec les conflits mémoriels et on est finalement en train de parler de tout ça depuis le début. Pourquoi ? Parce que ça participe aussi à diviser, à scinder notre nation au moment où on a besoin de faire union et besoin de faire sens. Et oui, savoir reconnaître ses erreurs, ça fait aussi partie de nos valeurs françaises. Reconnaître ses erreurs, ça ne veut pas dire passer son temps à se frapper dessus et être dans un sentiment de culpabilité. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le discours du président de la République lundi dernier, c'est absolument pas ce qu'il a dit. Il présente ses excuses au nom de la nation. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit juste à présent, effectivement, il y a des dizaines de milliers d'hommes et de familles et de descendants qui ont subi ce sujet. On les appelle les harkis. Donc oui, il s'agit de reconnaître. Maintenant, venir dire que on vient saucissonner l'histoire, je pense que c'est complètement faux, sachant qu'en plus, il a été annoncé très justement qu'un projet de loi allait être mis en place, que des discussions et des groupes de travail allaient être mis en place avec les associations concernées, avec les parlementaires, les sénateurs concernés, et que différents discours de prise de position du président de la République allaient être mis en place. Donc je pense que c'est pas rendre honneur à la France et aux valeurs qu'on défend, et surtout pas rendre honneur à l'ensemble du travail qui a été fait par les associations représentatives des harkis, sur ce sujet-là. Maintenant, pour ce qui est d'Éric Zemmour, parce que finalement, on parlait d'Éric Zemmour, oui. C'est assez marrant de revenir sur le président de la République. Mais si vous voulez, sur le sujet d'Éric Zemmour, moi, ce que je constate de manière très simple, c'est qu'il met des sujets dans le débat, c'est quelque part des questions auxquelles nous devons, nous, classe politique, répondre. Parce que pour l'instant, j'estime que pour l'instant, Éric Zemmour n'est pas encore complètement dans le costume de l'homme politique. Il est encore, pour l'instant, dans le sujet de l'éditorial, du polémiste, du philosophe peut-être du révisionniste de temps en temps, mais il ne l'est pas encore. Alors. Donc, plutôt que de nous dire non, on se met les mains sur les oreilles et les doigts sur les yeux, écoutons ce qui se dit, parce que ça représente 11% de l'opinion publique, et répondons à ces sujets. Et de venir s'envoyer des anathèmes, au contraire, je trouve que ça lui donne encore plus de crédit.
Répondons à des sujets. Je vais vous faire entendre une autre séquence. Personnellement, j'ai un peu de difficulté à l'entendre, mais voilà, c'est sur les lois de Vichy. Beaucoup de réactions, indignés depuis ce matin sur Internet, qui vont à l'encontre de ce que dit Éric Zemmour, à savoir que Vichy a sauvé des juifs français.
Vous dites qu'il y a une dissociation entre les lois discriminatoires anti-juives de 40 et le projet d'extermination des juifs. Selon vous, il n'y a pas une continuité.
Mais ce n'est pas moi qui le dis. Là aussi, ce sont tous les historiens.
Oui, mais...
Non, il n'y a pas de continuité.
Donc,
Quand Vichy prend ces lois discriminatoires, que je condamne évidemment, parce que maintenant je suis obligé de tout préciser, puisqu'on me prête des choses délirantes. Donc évidemment que je les condamne, parce qu'en plus ça me touche moi, en l'occurrence. Bon. Je n'aurais pas pu faire mon métier, je n'aurais pas pu être ce que je suis, etc. Donc,
vous voulez condamner les lois antisémites.
Mais elles n'étaient pas dans une logique exterminatrice. Oui,
pour vous, il n'y a aucun lien.
Mais ce n'est pas pour moi. Encore une fois, tous les historiens le disent.
Mais je pose la question à Éric Zemmour, presque candidat à la présidentielle.
Mais pour moi, il n'y a pas de lien. Non, ce n'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas exterminateur. Ce sont les Allemands qui ont introduit cette logique exterminatrice. Non, effectivement. Mais donc, ça paraît compliqué aujourd'hui. Les gens ne comprennent plus cette distinction.
Mais vous dites que Vichy a créé l'application de la solution finale, c'est ça ?
Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers. Que aujourd'hui on trouve ça abominable, et c'est abominable puisque ces pauvres gens sont morts.
Grâce à des policiers et malgré Vichy, malgré Pétain, malgré Erland, malgré Bousquet.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, les Français ont sauvé des juifs. Mais le principe même de la zone libre a sauvé des juifs.
Bon,
non, mais là, on est dans le révisionnisme le plus complet. Alors, parce que, pendant l'extrait pour nos auditeurs, on échangeait avec M. Devecchio. Oui, bien sûr, c'est les Allemands qui ont, si je puis dire, inventé la Shoah, qui ont été portés la politique d'extermination. Mais enfin, la police française a participé largement. Il y a eu même les enfants qui ont été amenés par la police française, alors que ce n'était même pas une demande de la police allemande. Voilà. Et par ailleurs, le statut des Juifs, Gire Pétain, c'est une des premières mesures qu'ils prennent. Il n'y a même pas les Allemands qui disent il faut mettre le statut des Juifs. Voilà, parce que c'était dans le programme politique de Vichy. C'est ça la réalité. Parce que l'antisémitisme, il était extrêmement puissant en Allemagne et Hitler a porté ça, mais il existait aussi fortement dans la société française. Très fortement. Voilà, il y a eu, et depuis l'affaire Dreyfus, c'était une maladie française aussi. C'était une maladie allemande, une maladie européenne, mais aussi une maladie française. Et le régime de Vichy, c'est la continuité de ça. Ne pas reconnaître ça, franchement, c'est en plus. Tous les historiens, enfin tous ceux qui font l'analyse de la période de l'histoire de Vichy, c'est clair, l'histoire de « on a préservé les juifs français », ça c'est du faux, c'est une affabulation que les pétainistes ont essayé de construire après 1945.
Alors, Alexandre Devecchio.
Alors, plusieurs choses. Sur la question de la repentance, je peux rejoindre Éric Zemmour, je pense que ces dernières années, on a sans doute une lecture trop noire de l'histoire de France, ou plus exactement, c'est concentré uniquement sur les pages sombres, oubliant qu'il y avait des pages lumineuses. Je pense au livre de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, on avait parfois l'impression que l'histoire de France se résumait à Vichy. Et je pense que dans un premier temps, c'est ce que Éric Zemmour a voulu combattre, dire où il y a aussi des heures de gloire, et faire porter la culpabilité sur toute la France, sur tous les Français, c'est pas le meilleur moyen de nous rassembler. Le problème, c'est qu'Éric Zemmour, finalement, glisse de ça à ce qui peut apparaître comme une défense du maréchal Pétain. Je pense qu'il a tort historiquement, et il a tort politiquement. Et c'est là où on voit qu'il y a un mélange des genres entre l'historien, l'intellectuel et l'homme politique. Ben, il peut y avoir des débats historiques très précis sur le rôle exact de Vichy, la différence par rapport à l'Allemagne. Il y en avait certains qui avaient une politique exterminatrice, d'autres c'était une politique antisémite, mais qui s'inscrivait plus dans un antisémitisme classique que l'antisémitisme nazi. Ce n'est pas la même chose. Tout ça, on peut en discuter effectivement en tant qu'historien, en tant qu'intellectuel. Dans un débat politique aujourd'hui, à la veille d'une présidentielle, ça me paraît extrêmement contre-productif. Mmh. Et puis, on ne voit pas bien l'intérêt. Donc, je pense qu'Éric Zemmour aurait intérêt à trancher très rapidement ce débat en expliquant que le régime de Vichy a été globalement, en tout cas, plutôt une honte pour la France, et rappeler que Éric Zemmaur devrait rappeler qu'il a été
Chirac, d'ailleurs, on a été le témoin en 1995 avec
est-ce qu'il fallait reconnaître la responsabilité de l'État français ou du régime de Vichy? François Mitterrand, par exemple, ne reconnaissait pas la responsabilité de l'État français parce qu'il considérait que l'État français était à Londres, dans la lignée de De Gaulle. Donc ça, c'est un débat éminemment respectable qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que c'est un débat plutôt d'intellectuel, et je pense que Éric Zemmour, s'il veut être politique, montrer qu'il a du sens politique, il devra se sortir de là rapidement, parce qu'effectivement là, il peut laisser croire qu'il défend le régime de Vichy et perdre beaucoup de gens qui sont hostiles à la repentance, mais qui par contre savent faire la différence entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle.
Je suis totalement hostile à la repentance, je suis totalement hostile à tout ce qu'il a pu énoncer sur ces thématiques-là. Et je considère, si vous voulez, qu'il a du mal à quitter son costume d'éditorialiste. Finalement, ça lui a réussi. Il a réussi le tour de force, et il fallait l'écouter. Moi j'ai plusieurs fois, quand j'avais le temps, j'ai pris le temps d'aller regarder ces news parce qu'il avait parfois des analyses intéressantes. Simplement, je faisais la différence entre le bon grain et l'ivraie, comme lui veut le faire pour les musulmans. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, pas malgré lui, est en train aujourd'hui d'aller dans une autre logique, une autre dimension. Et je constate que le Zemmour intellectuel, finalement, c'est le meilleur ennemi du Zemmour politique, parce qu'il va discréditer l'homme politique qu'il veut représenter par la suite.
Merci pour ces débats sur le débat, en l'occurrence sur cette interview d'Éric Zemmour, qui était donc ce matin sur Europe 1, sur CNews, en partenariat avec le journal Les Échos. C'est une interview que, bien sûr, vous pouvez retrouver sur notre site dans son intégralité, europe1.fr. Prescat Thévenot, Alexandre Devecchio, Patrick Caram et Philippe Doucet reviennent après le journal de 19h, et il sera question de François Bayrou et d'Edouard Philippe. C'est un peu le je t'aime moi non plus entre eux. Et puis bien sûr la succession d'Angela Merkel, qui pour prendre sa place alors que dans le cœur des Allemands, dans la tête des Allemands, elle est devenue totalement irremplaçable. A tout de suite, c'est Europe 1.